bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir dans le cadre de notre partenariat avec l'association Voix Publique. Le thème cette année, c'est le don. Donc, je voulais remercier les représentants de cette association, Madame Arnaud et puis François Naud, de faire appel à nous pour organiser ces conférences. On a des choix, on cherche, etc. C'est très intéressant. Et donc, je voulais aussi remercier infiniment M. Attané d'être là ce soir, parce que vous savez qu'il y a des grèves qui ont commencé à Paris à 7h, à 19h. Il y a déjà quelques difficultés pour venir, et on ne sait pas si, à quelle heure M. Attané sera à Paris demain. Donc, merci beaucoup en tout cas. Enfin, c'est un don que vous nous faites, voilà. Hein. Mais un don, quelquefois, doit être rendu, donc on ne sait pas ce que vous allez demander en contrepartie. Donc, en tout cas, merci infiniment à vous. Nous avons hâte de vous écouter. Vous avez écrit un ouvrage qui est votre thèse, je pense, qui a été édité aux éditions PUF, pour une histoire naturelle du don. Voilà. Une partie de votre thèse, bien entendu. Hein. Bien entendu, c'est que... Non, je suis sûre que non. Vous êtes très, très gentil. Je suis sûre que non. Donc, on va vous écouter avec plaisir. Merci beaucoup et je passe la parole à François qui va présenter notre invité aussi.
Merci Anne. Alors, merci à l'Espace Mendès France de nous accueillir aussi, car c'est un partenariat, c'est un échange, n'est-ce pas? Et nous sommes heureux chaque année d'avoir la possibilité, au moins une fois, quelquefois plus, de faire quelque chose ensemble dans le cadre de cette semaine de Voix Publique. Merci évidemment beaucoup à François Attané d'avoir affronté les mouvements sociaux. Il les a vus un tout petit peu au départ, mais il aura ce qu'il lui faut demain. Et de n'avoir pas hésité quand même à venir nous retrouver ce soir. Quand on a choisi, avec peut-être une certaine prétention, quand on a choisi le thème, hein, je cherchais la fiche, oui, c'est ça, elle est là, le thème de la semaine, le don, nous nous sommes dit que le don, il fallait aussi l'aborder, il fallait peut-être d'abord l'aborder sur un plan très fondamental, sur un plan philosophique. Nous avons pensé aussi à un plan ethnographique, bien entendu, parce que le don renvoie automatiquement à Marcel Mauss, à Lévi-Strauss, etc. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes tournés vers Anne et vers l'Espace Mendès France, qui nous ont dit, mais voilà, nous avons qu'il nous faut. Et c'est François Attané qui a bien voulu venir nous parler du don. François Attané qui est philosophe, qui enseigne la philosophie au lycée Fénelon, à l'université d'Évry, à l'université de la Sorbonne, et qui a fait sa thèse, comme vient de le rappeler Anne, sur la question du don, et qui va nous dire, enfin je ne sais pas s'il nous le dira d'ailleurs, mais qui va essayer de nous faire réfléchir sur un point fondamental, le don, après tout. Est-il possible? Merci.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre invitation, cher François, cher Anne. Merci beaucoup de votre présence. Il vient d'être... mentionner les travaux universitaires que j'ai faits sur la question du don. Beaucoup de ces travaux sont issus, comme vous l'avez mentionné, François, de recherches d'anthropologues, mais aussi d'historiens, mais aussi d'éthologues et de psychologues, bien entendu. Donc mon travail est redevable de toute une série de recherches qui ne sont pas directement, essentiellement réputés de la philosophie, mais dont je crois la philosophie doit tenir compte et qu'elle a à prendre en compte. Le point néanmoins que je souhaite vous présenter ce soir ne tient pas essentiellement à ces recherches déjà publiées. Je voudrais profiter de cette rencontre pour vous faire part d'un certain nombre de réflexions qui sont pour partie ouvertes et qui sont encore à l'état d'investigation. C'est une recherche en partie encore à faire que je souhaite vous présenter. Mais dans les préalables nécessaires pour entrer dans ces questions-là, je souhaite néanmoins vous faire part, bien entendu, d'un certain nombre de résultats des réflexions qui ont conduit mes travaux que vous venez de mentionner, chère Anne, publiés aux Presses universitaires de France pour une histoire naturelle du don. Alors, le premier point pourrait être une remarque sur l'intitulé de ces rencontres. Le don, c'est bon. Le don, c'est bon ? Est-ce bon ? Oui et non. Je ne peux pas répondre simplement à cette question que je pose, cette exclamation que je transforme en interrogation. Le don, oui, nous aimons donner, nous aimons recevoir souvent, mais le don peut être aussi séducteur. Dans l'ambiguïté de la séduction, il peut être corrupteur, il peut être humiliant, il peut être écrasant. Et je vous suggère à ce sujet de réfléchir à la sagesse inuite, un proverbe, les dons font les esclaves comme les fouets font les chiens. Proverbe qui nous est rapporté par l'ethnologue Froschen dans un ouvrage de 1961, proverbe qui a été médité aussi bien par un de mes maîtres, Alain Testard, que par l'écrivain Pascal Quignard dans Les Ombres errantes, un livre que je vous recommande. Les dons font les esclaves comme les fouets font les chiens. Ils ne font peut-être pas que des esclaves. Mais quant au rapport entre le don et le chien, peut-être que je pourrais vous en dire quelques mots plus tard. Le premier point que je souhaite mettre en relief, c'est d'abord que donner, ce n'est pas toujours faire un don. Je peux, à ce sujet, vous raconter une petite histoire. Il y a quelques jours, je vais dans ma pâtisserie préférée. Je demande à la pâtissière une charlotte aux fraises. Elle me dit « Ah, je n'ai plus de charlotte aux fraises, mais je peux vous donner une tarte aux pommes. » Je dis « Très bien, je prends une tarte aux pommes. » Et puis comme on a sympathisé depuis longtemps, nous discutons un peu ensuite, elle a du temps, et comme elle semble soucieuse, je lui demande ce qui ne va pas. Elle me dit « Ah, il faut que je paye les impôts. Vous vous rendez compte ?» Tout cet argent qu'on leur donne. Bien, je sors de la pâtisserie et là je rencontre quelqu'un qui tend la main dans la rue, qui est visiblement en état de nécessité et de misère et qui me dit s'il vous plaît, etc. Je sors mon porte-monnaie, je lui dis tenez, je vous donne 5 euros. Merci beaucoup. Et puis au coin de la rue, là il m'arrive une mésaventure. Un malfaiteur se jette sur moi, me met le couteau sous la gorge et me dit « Donne-moi ta tarte aux pommes !» Là, je... D'accord, je te donne ma tarte aux pommes. Bien. Dans cette affaire, vous voyez qu'il y a quatre occurrences du verbe « donner ». « Je vous donne une tarte aux pommes », dit la pâtissière. Tout l'argent qu'on leur donne aux impôts, je donne un euro, quelques euros à celui qui me demande de l'argent dans la rue, je donne ma tarte aux pommes à celui qui me met le couteau sous la gorge. Vous voyez bien que dans ces quatre occurrences, toutes ces occurrences ne sont pas des cas où on fait un don. Très clairement, dans le premier cas, la pâtissière ne fait pas un don. C'est un achat dont il s'agit. Elle me remet en échange de l'argent. Quant à cet argent qu'elle fournit aux impôts, ce n'est certainement ni un don, ni un cadeau, ni un présent, certainement pas. Elle remet de l'argent aux impôts, elle paye. Donner, ce n'est pas toujours faire un don dans ces deux cas. Dans le troisième cas, là oui, je fais un don. je fais un don aux mendiants. Dans le quatrième cas, certainement pas. Donne-moi ta tarte aux pommes, sinon je te tranche la gorge. Oui, bon, ça ne sera pas faire un don. Les latins avaient une distinction là-dessus, dans le verbe « dare », qui signifiait « transférer, remettre, céder ». Et de même, on trouve en anglais cette ambiguïté qu'on a en français. « To give » n'est pas toujours « make a gift ». « To give », ça peut être « remettre, céder », comme « donner » en français. Hein. « Donner » a donc une pluralité de sens extraordinaire. Et donner n'est pas toujours faire un don à proprement parler. Donner, c'est simplement transférer, remettre, céder, etc. sous la forme de l'échange, de l'impôt ou de la prédation, en l'occurrence. Et je voudrais clarifier donc la différence. À quel moment est-ce que transférer, remettre, fournir, céder, c'est véritablement faire un don ? Je vais essayer ici de passer par un certain nombre de médiations. Notamment, d'abord, la notion d'échange. Qu'est-ce qui se passe-t-il entre moi et la pâtissière ? Je fournis de l'argent, elle me fournit sa tarte aux pommes. Eh bien, dans ce cas-là, il y a, on peut dire, un échange, et même un échange marchand, un échange au sens où quelque bien est, ou service est cédé moyennant contrepartie. Et chacun des deux transferts est la contrepartie de l'autre. De surcroît, chacun des deux transferts est exigible au titre de contrepartie. Si elle me remet la tarte aux pommes, alors je lui dois et elle peut exiger l'argent, etc. Et réciproquement. Donc ici, échange est approprié. Dans un autre sens, on parle d'échange aussi parce que on se fait des échanges de sourires, de clins d'œil. Dans le bus, on se fait des échanges de politesse, on se fait des échanges de lettres, de toutes sortes de choses. Quelle est la différence avec le cas précédent ? C'est que lorsque je souris à quelqu'un dans le bus, on n'a pas convenu qu'il allait me sourire en retour. Il va me répondre éventuellement par un sourire, un échange de regard, eh bien, mais je ne peux pas exiger qu'on me sourit lorsque je souris, dans ce cas-là. Donc il y a ici quelque chose qui ressemble à l'échange au sens précédent, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement réciproque. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est l'exigibilité de la réciprocité. Il y a l'intention de répondre lorsqu'on me sourit après que j'ai souri, il y a l'intention de répondre, mais il n'y a pas l'exigibilité au sens fort. Je peux être vexé si on ne me sourit pas, mais je ne peux pas protester, porter plainte, etc., comme si quelque chose m'était dû. Dans un troisième sens encore, on a un échange encore plus faible. Lorsqu'on parle, par exemple, d'un échange, peut-être vous pourrez nous en dire plus, François, vous êtes spécialiste de ce genre de choses, d'échange entre, par exemple, un milieu, une cellule et un milieu tissulaire, ou un échange de chaleur entre deux fluides, un échangeur de vapeur, c'est une machine qu'on peut utiliser, par exemple, dans l'industrie, ou bien encore, on peut parler d'échange de voitures entre la ville et la campagne. Et là, vous voyez qu'on est dans un sens, d'une certaine manière, encore plus faible, on a juste simplement un mouvement réciproque sans que il y ait une intention quelconque, sans qu'il y ait même la présence d'un esprit dans l'affaire. D'accord ? Par conséquent, on arrive à trois sens du mot échange qu'il s'agit de bien distinguer. On a l'échange au sens économique. L'échange au sens économique, c'est lorsque il y a deux transferts dont chacun est la contrepartie exigible de l'autre. C'est le cas de ce qui se passe avec ma pâtissière préférée. Il y a l'échange au sens communicationnel, lorsque un événement a lieu avec l'intention de répondre à un événement qui l'a précédé. C'est l'échange de sourire ou de regard. Et puis, il y a un échange au sens simplement cinétique, lorsque d'un lieu à un autre, des fluides, des substances, des matières circulent. D'accord ? Vous voyez que seul le premier sens est à proprement parler économique, c'est-à-dire qu'il y aurait un enjeu en termes de droits et de devoirs. Un échange économique peut donc être ainsi déterminé, défini. C'est l'ensemble formé par deux transferts dont chacun est la contrepartie exigible de l'autre. Je pense qu'on peut tous reconnaître nos pratiques des échanges économiques dans cette affaire, dans cette formule. Que veux-je dire par exigible ? Je précise le point. Exigible par éventuellement une contrainte physique qui sera tenue pour légale, pour légitime. D'accord ? La boulangère peut protester si je ne lui remets pas l'argent. A fortiori, si la somme d'argent est plus importante, par exemple dans l'achat d'une voiture, si je fais un chèque en bois, etc., tout cela peut mal se terminer par des saisies sur biens, par des contraintes physiques qui seront réputées légales, du moins dans la société où nous sommes. D'accord ? Donc, l'exigibilité, elle est ici au sens fort de la possibilité d'une contrainte physique. Au contraire, lorsque je remets 5 euros au mendiant à la sortie de la pâtisserie, il n'a pas le droit d'exiger cela de moi. Il ne peut pas protester auprès de la police si je ne lui remets pas les 5 euros. Et de même, si lui-même ne me remet rien, ce qui arrivera très probablement, peut-être quelqu'un que je ne recroiserai jamais, si c'est dans une grande ville comme Paris ou ailleurs, eh bien, je ne pourrai pas protester non plus, je ne pourrai pas porter plainte, il ne pourra pas y avoir contrainte physique légitime s'il n'y a pas de contrepartie. Donc le don peut se définir de cette façon-là. Le don est un transfert exigible, sans contrepartie exigible. Vous voyez que ici, je caractérise le don et l'échange toujours par rapport à la possibilité d'une contrainte physique légitime. Ce qui caractérise le don, c'est que dans le don, il n'y a pas de contrainte physique légitime qui soit en jeu. Je suis clair là, ça va ? Bien. À partir du moment où nous avons ces deux possibilités, eh bien, on peut réfléchir à tous les cas où nous parlons de dons, de cadeaux. Et je vous assure que, après avoir travaillé maintenant un certain nombre d'années sur la question, plus de 15 ans, je n'ai pas trouvé un seul exemple où on parle de façon légitime de dons, de cadeaux, de présents, et où cette formule ne soit pas vérifiée. Quand vous rendez service à un ami pour déménager et que lui-même ensuite ne vous rend pas ce service, vous ne pouvez pas vous plaindre à la police. Quand vous faites un cadeau à Noël à votre frère ou votre sœur et que lui-même ne vous fait pas de cadeau, eh bien, il n'y a pas moyen d'aller s'enquérir de l'huissier à ce sujet. Et de même pour les anniversaires, etc. À chaque fois qu'il y a don, on exclut la possibilité d'un recours à la contrainte légitime, même si il peut y avoir néanmoins des sanctions, mais des sanctions qui seront informelles. On se plaindra. On fera des reproches, on exclura, on évitera, on délaissera. Ces sanctions seront informelles. Donc, l'idée centrale, c'est qu'une fois qu'on a ces deux notions, de l'échange économique et du don, à partir de l'exigibilité, on peut envisager une troisième possibilité. C'est celle dont je dirai un mot dans un instant. Mais au préalable, je tiens à ici vous avertir contre une locution qu'on rencontre à longueur de page dans toutes sortes de littérature ethnologique, sociologique, philosophique qui parle d'échange de dons. Il est tout à fait logique de parler d'échange de dons, par exemple à Noël. Bon, on se fait des cadeaux mutuellement. Dans toutes sortes de cérémonies, dans toutes sortes de situations, on fait des dons réciproques comme ça, et ça a l'allure d'un échange. Bon. Mais cette expression, vous le comprenez, est complètement égarante, complètement erronée, si derrière on n'a pas la distinction que j'ai donnée entre l'échange économique, où la contrepartie est exigible, et l'échange communicationnel, ou simplement on a l'intention de répondre. Et c'est pourquoi on peut parler d'échange de dons, mais si et seulement si on entend par là un échange du type échange de sourire, échange de regard, échange de politesse, c'est-à-dire effectivement des réciprocités, des intentions de se répondre, mais sans une exigibilité de la réciprocité. Par conséquent, je suggère de ne pas parler d'échange de dons, mais plutôt de dons et de dons en retour, et souvent il n'y a pas de dons en retour. C'est un pont aux ânes qu'on trouve dans beaucoup de travaux de vulgarisation pas très bien maîtrisés sur la question du don, de dire qu'il n'y a pas de don sans don en retour. C'est complètement faux. Le simple fait de donner un euro à quelqu'un qu'on croise dans le métro ou sur le trottoir d'une ville qu'on ne connaît pas atteste qu'il y a des dons qui seront perpétuellement sans retour. Et cela ne signifie pas pour autant que le don, c'est bon, que quand je donne un euro comme ça, je fais quelque chose de bon, je fais peut-être simplement quelque chose pour me débarrasser de l'autre ou pour l'humilier avec ma montagne d'euros dans ma poche, alors que lui n'a rien. Vous voyez, ce que je suggère ici, c'est que le don n'a pas de rapport nécessaire avec une quelconque motivation psychologique. La motivation psychologique du don, elle peut être altruiste, elle peut être généreuse, mais elle peut être aussi d'une toute autre nature. Je l'ai suggéré tout à l'heure, elle peut être corruptrice, elle peut être séductrice, elle peut être même celle d'humilier l'autre. Alors, donc, laissons de côté l'idée d'un échange de dons, c'est complètement égarant. Parlons d'échange économique au sens fort. Un transfert qui est exigible au titre de contrepartie d'un autre transfert qui sera lui-même exigible. Et le don, c'est le transfert qui n'est pas exigible et qui n'a pas de contrepartie exigible. Qu'en est-il maintenant d'une troisième possibilité logique ? Un transfert exigible sans contrepartie exigible. Si le don n'est pas exigible, qu'il n'a pas de contrepartie exigible, on peut envisager une troisième possibilité. Un transfert exigible sans contrepartie exigible. Si vous y réfléchissez, vous aurez reconnu le problème de ma pâtissière. Il s'agit de l'impôt, de la taxe, de la corvée, des serfs pour le Seigneur, du service militaire et aussi, dans un autre registre, des amendes, des réparations et des dédommagements. Alors, l'impôt, vous allez me dire, oui. L'impôt, c'est apparemment quelque chose qui va avoir un retour. Je paye des impôts pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait des hôpitaux, pour qu'il y ait des écoles. Oui, certes, mais ce n'est pas au titre du fait que je paye des impôts que je vais avoir une route en bas de chez moi ou une école pour mes enfants. Non, c'est une profonde erreur. Je suis contribuable d'une part et je dois des impôts parce que j'ai tel niveau de revenu ou parce que j'achète telle ou telle chose qui est taxée par la TVA, n'est-ce pas ? Mais c'est en tant que résident d'une ville, c'est en tant que citoyen, c'est un autre titre que j'ai droit à ce qu'il y ait une route, un hôpital, un éclairage public, etc. Et cela tient à quelque chose de tout à fait essentiel, me semble-t-il, c'est la nature des biens publics. Vous ne pouvez pas financer, par exemple, la sécurité, la paix, l'éclairage public, l'assainissement des eaux, en discriminant, d'une part, ceux qui vont en bénéficier, qui auraient payé l'impôt, et ceux qui ne vont pas en bénéficier parce qu'ils n'auraient pas payé l'impôt. La nature des biens publics, la paix, vivre dans un environnement non pollué, etc., implique nécessairement qu'il n'y a pas, pour un certain nombre de biens publics, de discrimination possible entre ceux qui ont payé et ceux qui n'ont pas payé. Je le répète, le bien public que vous pouvez exiger, par exemple la paix, l'air non pollué, l'éclairage public, ou bien encore l'hôpital, l'école, vous pouvez l'exiger, certes, mais parce que vous êtes citoyen, parce que vous êtes résident, pas parce que vous êtes contribuable. Je suis clair sur ce point ? Je crois que ce... Oui, excusez-moi. Le don est... excusez-moi, le don est un transfert non exigible, sans contrepartie exigible. D'accord ? Hein ? Je suis navré. D'où ma demande. Hein, la seule contrepartie, c'est l'indulgence. Voilà. Bon. L'idée centrale est donc la suivante, c'est que, alors après, si vous prenez le cas de la corvée médiévale, du service militaire, etc., là aussi, c'est la même situation, et je suggère, mais c'est un point un petit peu annexe à notre propos, que dans les amendes aussi, dans les réparations, dans les dédommagements, il y a la même chose. Ce n'est pas parce que c'est au titre du fait que mon chien a mordu un passant que je paye une amende, l'inverse n'est pas exigible. Ce n'est pas parce que je paye une amende que mon chien a le droit de mordre le passant. Donc vous voyez, on n'est pas dans un échange à proprement parler. Simplement, on a différents cas, différentes situations qui créent une obligation de payer quelque chose qui n'aura pas de contrepartie exigible. Vous voyez que dans tout ça, il n'y a absolument rien qui ait trait aux motivations psychologiques finalement. On arrive donc à un petit tableau où là, j'espère que je n'ai pas écrit de bêtises. Excusez-moi. J'ai terminé le travail dans le train et certains trains permettent de brancher son ordinateur, d'autres non. C'était le cas là et j'ai été coupé dans mon travail par l'absence de batterie. Bon. Alors ici, vous voyez qu'avec ce petit tableau, on résume bien les choses. Vous avez des cas où le transfert est non exigible. Lorsque la contrepartie n'est pas exigible, c'est du don. Par exemple, ce qui se passe à Noël. Lorsque la contrepartie est exigible, on a un échange libre. Hein, les gens sont libres d'acheter ou pas dans les foires, dans les commerces, etc. Ou bien dans certains échanges cérémoniels, comme ceux qui ont été étudiés par Malinowski et Mauss en Mélanésie, le Kula. Bien. Lorsque le transfert est exigible et n'a pas de contrepartie exigible, on a ce que j'appelle un transfert du troisième type, qui est une monstruosité verbale que j'ai dû emprunter à un anthropologue, Alain Testard, pour dire une situation pour laquelle la langue française n'a pas de terme générique, l'impôt, la taxe, le dédommagement, la corvée, le service militaire. D'accord ? Transfert du troisième type que j'abrège en T3T. Et puis, il y a un quatrième cas qui est bien méconnu, et il est tout à fait significatif qu'il soit méconnu, c'est le cas où il y a à la fois transfert exigible et contrepartie exigible, c'est lorsque l'État, l'autorité, vous contraint à échanger. C'est le cas dans les nationalisations. Oui, ça existe, on peut nationaliser certains biens. C'est le cas aussi lorsque on contraint à démanteler un trust, par exemple. C'était le cas dans l'Égypte ptolémaïque, par exemple, l'Égypte hellénisée, où, par exemple, les paysans avaient l'obligation de vendre leurs olives à certains pressoirs, ceux qui étaient validés par le pharaon. On a toutes sortes de cas où l'échange n'est pas libre, où l'échange est obligatoire. Hein, oui. Mais maintenant, on a encore un quatrième cas. C'est lorsque j'ai le couteau sous la gorge et que je remets ma tarte aux pommes ou mon téléphone portable. Et ça, c'est le point qui a été largement négligé. Lorsque donc un transfert n'est pas exigible, mais qu'il est exigé et qu'il est réalisé. Et ça, c'est évidemment une affaire considérable. Il y a une part gigantesque des transferts économiques qui relèvent de cette nature. Et il y a une part gigantesque de notre histoire qui a pour principe explicatif ces pratiques de la prédation, les razzias, les pillages, les vols, les escroqueries, les détournements de fonds, etc. Ce sont des transferts qui sont obtenus par la ruse, par la contrainte, par la force, sans être pour autant exigible. Voilà. À partir de là, on a balisé, me semble-t-il, et ça c'est l'apport propre de mon travail de thèse, on a balisé l'ensemble de tous les cas possibles, des transferts économiques. On a le don, l'échange, le transfert du troisième type et la prédation, le transfert du quatrième type qui regroupe des choses très variables comme la rançon, le racket, l'escroquerie, l'extorsion, le pillage, la prévarication, la razzia, etc. Bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce que je vous ai dit ? Ce qu'il n'y a pas, c'est une tentative de caractériser les transferts par les motivations des acteurs. Dans tout cela, il peut à chaque fois y avoir des motivations très très hétérogènes, et en particulier dans le don. N'est-ce pas ? Ce qu'il y a à chaque fois, c'est qu'il y a une distribution des droits et des devoirs. Lorsque vous donnez à quelqu'un, les enfants des cours de récréation le savent, donner ses données, reprendre ses volets. Donner ses données, ça signifie maintenant, ces données, c'est à toi, tu as des droits dessus. Tu peux en faire ce que tu veux, tu peux le donner, tu peux le garder, tu peux le détruire. Ce n'est plus à moi, j'ai cédé mes droits dessus. Je parle de structure déontique pour désigner ce type de phénomène. Une distribution de droits et de devoirs, là, entre nous, il y a constamment des structures déontiques. Ceci n'est pas à moi, ceci est à moi. J'ai des droits là-dessus, je peux détruire cette montre, je peux détruire ce téléphone, je n'ai pas le droit de détruire cet ordinateur qui n'est pas le mien, etc. Il y a une répartition de droits et de devoirs. Simplement, et là peut-être que cela va faire écho avec une discussion qui a eu lieu, je crois, cet après-midi avec un juriste, un notaire. Simplement, je parle de structure déontique et non pas juridique. Déontique, déontologie, comme vous savez, c'est la racine qui renvoie au devoir, au droit, au système des obligations sociales. Et j'emploie ce terme à dessein. Pourquoi j'emploie ce terme à dessein plutôt que juridique ? Parce que tout dépend de la communauté de référence que vous prenez. Je vous raconte une autre petite histoire. Un voleur a volé une bague. Il la donne à son amante. Il n'est donc pas le propriétaire légitime de la bague, puisqu'il l'a volée. On peut dire tout au plus qu'il l'a à sa disposition ou en sa possession. Il n'en est pas le propriétaire légitime. Dès lors, entre lui et son amante, est-ce qu'il y a vraiment eu un don ? Alors, pour le magistrat, certainement pas. C'est un cas de recel. Mais entre eux, dans la bande de voleurs qu'ils constituent, il y a une norme, c'est que ce qui est au voleur est désormais à l'amante du voleur, qu'il y a eu don. En d'autres termes, tout dépend de la communauté de référence que vous prenez. Un transfert, un événement cinétique, le passage d'une main à une autre de cette bague, peut-être, il est un recel, il est une prédation, il est quelque chose d'illégitime dans le regard du magistrat, si vous prenez comme communauté de référence la communauté des juristes ou les normes dominantes dans notre société. Si vous prenez la micro-société que constitue la bande de voleurs, là c'est un don. Un même événement cinétique peut réaliser en fait plusieurs événements déontiques. Il est très important de percevoir cela parce que c'est parce qu'il y a des micro-sociétés où les normes sont différentes de la norme dans la société dominante, qu'il peut y avoir des luttes de légitimité. Que certains vont dire, moi j'ai le droit de faire ceci, par exemple de louer mon utérus pour quelqu'un qui veut avoir un enfant, c'est la GPA, tandis que d'autres vont dire non, et puis il y a des luttes de légitimité, c'est comme ça qu'évoluent les normes, c'est comme ça qu'évolue le droit. Si vous ne faites pas la distinction entre le juridique, qui est la norme dominante dans une société, et le déontique, qui sont les normes immanentes à toute une série de micro-sociétés dans des communautés restreintes, mais qui ne sont pas les communautés dominantes, vous vous condamnez à ne pas comprendre l'évolution des normes et le fait qu'il peut y avoir des luttes de légitimité et que ce qui est prédation, recel, illégal, etc. Par exemple, louer son utérus aujourd'hui en France, c'est illégal, mais ce n'est pas dans d'autres pays, vous le savez. Eh bien, peut-être qu'un jour, ça va bouger si cette communauté de gens qui tiennent ça pour légitime faire valoir leur point de vue, et etc. Donc, la structure déontique n'est pas nécessairement la structure juridique. Dans la micro-société qu'ils forment, il y a eu don. Dans la société dominante, ou du point de vue du propriétaire de la bague, du point de vue du magistrat, ce n'est pas un don, c'est de la prédation, c'est du recel. Bien. Prenons un cas. Un autre cas particulièrement important à mes yeux. Vous savez qu'en droit français, lorsque vos parents meurent de faim ou vos enfants, vous avez l'obligation de les nourrir. C'est l'obligation alimentaire à l'égard des ascendants, des descendants. Mais nous n'avons pas en droit français d'obligation alimentaire à l'égard des collatéraux. Si votre frère ou votre sœur meurt de faim, vous n'êtes pas tenu de le nourrir. Alors, qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'une mère nourrit son enfant ? Du point de vue du juriste, on pourrait dire, ce qu'elle fait, c'est un transfert exigible, et qui n'apparaîtra pas de contrepartie exigible tant que l'enfant ne sera pas majeur. C'est ce que j'appelle un T3T. De même que lorsqu'un mettons une institution comme un orphelinat public va s'occuper d'un enfant, l'assistance publique, etc., c'est un T3T, un transfert exigible sans contrepartie exigible. Mais il est bien évident que ce n'est pas ça qui se passe. Lorsque la mère nourrit son enfant, lorsque le papa habille son enfant, prend soin de lui, etc., dans la micro-communauté que constitue cette famille, c'est pensé comme du don. C'est pas pensé comme remplir ses obligations. Et la preuve en est que lorsque vous nourrissez vos enfants ou vos vieilles mères, etc., vous n'archivez pas les preuves du fait que vous êtes en train de remplir vos obligations légales. Donc je le répète à nouveau, ceci est un autre exemple où on voit que un même événement cinétique peut réaliser aussi bien un don que un transfert exigible sans contrepartie exigible, c'est-à-dire une obligation alimentaire sans contrepartie. Et même dans les sociétés, j'ajoute même dans les sociétés où on pense beaucoup les rapports intergénérationnels en termes de dettes, par exemple dans l'ancienne Inde védique, où les textes védiques et brahmaniques nous parlent beaucoup de la dette des fils par rapport aux pères, des vivants par rapport aux morts, etc. Même aujourd'hui, les pays notamment marqués par la culture hindouiste, dans les pays d'Asie du Sud-Est, au Bangladesh, en Inde, etc., je n'ai trouvé aucun cas, en fait, où les gens archivent les preuves et font la comptabilité de ce qu'ils donnent à leurs enfants en leur présentant la note plus tard. Ce qui atteste, à mon avis, qu'il y a toujours du don. Il y a toujours du don, fondamentalement, dans le rapport entre parents et enfants, et que c'est de ce point de vue-là, le don est ce qui nous a fait être. Des dons, nous avons reçu l'être, parce que sans ces dons-là, qui nous sont venus des générations antérieures, nous ne serions pas. Vous pouvez constater qu'un enfant, pendant très très longtemps, il ne peut pas être s'il ne reçoit pas, et ce qu'il reçoit, c'est d'abord des dons. Parfois, lorsque le don fait défaut, eh bien, on trouve des institutions qui prennent le relais, ce sont les orphelinats, l'assistance publique, etc. Bon. Mais le rapport premier, le rapport qui nous insère dans l'être et qui nous porte à être et qui nous rend capables d'autres rapports, qui nous rend capables de devenir ensuite des agents économiques qui vont échanger, etc., ce portage dans l'être, c'est le don. C'est le don qui nous fait être, qui nous fait tout simplement et très matériellement exister dans l'enfance. Voilà, donc toute l'affaire, c'est de bien comprendre que la motivation psychologique ne fait pas le don, d'une part. D'autre part, ce qui fait le don, c'est une certaine structure déontique qu'on peut faire contraster avec d'autres structures déontiques, d'autres types de transferts, et que tous ces transferts, ils ont toujours comme présupposé qu'on a une communauté de référence à laquelle on se réfère implicitement ou explicitement. Ce que je reproche aux chercheurs qui ont travaillé avant moi jusqu'à présent, c'est de ne pas avoir vu cela, que le choix de la communauté de référence est décisif. Et que de ce point de vue-là, on est un petit peu comme dans la physique galiléenne, c'est le bateau ou c'est le rivage qui se déplace selon que vous prenez comme repère le centre de la Terre, le Soleil, etc. Il faut un référentiel. Et un transfert, il faut un référentiel pour le caractériser. Ce sera un don, ce sera une prédation selon le référentiel que vous choisissez. Alors maintenant, je me concentre plus particulièrement sur le don après l'avoir situé parmi d'autres formes de transfert économique. L'idée de base, c'est qu'on a différentes sortes de dons qu'on peut contraster de façon différente. Vous voyez que tout à fait à gauche, c'est le don avec une distance sociale maximale, le don sans aucun contre-don. Lorsque, par exemple, je fais un chèque pour une association et ce chèque va bénéficier à quelqu'un à l'autre bout de la planète qui a eu à subir un tsunami ou une guerre ou que sais-je, quelqu'un qui va en bénéficier de ce don, mais avec lequel il n'y aura jamais de contre-don et qui peut-être n'aura jamais l'idée que c'est moi qui lui ai fourni cette nourriture, etc., ou cet abri. D'accord ? Le don et le contre-don peuvent être parfois non discernés. Là, c'est l'inverse. C'est lorsque on est dans l'extrême proximité sociale entre un époux et son épouse, entre deux amants, entre deux amoureux. Qu'est-ce qui est don, qu'est-ce qui est contre-don? Quand ça se passe bien, plus personne ne sait ce qui est don en retour et ce qui a été fait pour répondre à un premier don. Quand ça se passe bien, qu'on est amis, très proches, etc., eh bien, on ne discerne plus ce qui était don, ce qui était contre-don. Parfois, le don et le contre-don sont discernés. Je reproche à mon ami, par exemple, de ne pas m'avoir aidé à déménager alors que ça fait 5 ou 6 fois que je l'aide à déménager. Ça fait 5 ou 6 fois que j'arrive à son anniversaire avec une bouteille de champagne et lui, il arrive toujours les mains vides. Bon. Et au bout d'un moment, ça suffit, hein. Là, c'est que ça commence à, disons, se distancier socialement. On commence à faire la différence entre don et contre-don et à faire attention à ce qui est bien contre-don. Oui. Et puis, il y a ce qui est l'affaire propre des notaires que vous avez invités, je crois, cet après-midi. C'est un autre type de don très intéressant, à mon sens, c'est la donation avec charge. Lorsque vous faites une donation avec charge, c'est un type spécifique d'acte juridique. Vous donnez, par exemple, une somme à une institution, mettons aide, et vous dites, je veux que cette somme soit allouée aux malades du sida. Et si jamais vous en faites autre chose, vous devez me la restituer. Oui. Je veux que cette somme soit allouée aux gens qui sont malades du cœur et non pas à ceux qui sont malades du cancer. Et si vous allouez cette somme à ceux qui sont malades du cancer, vous êtes en tort. C'est la donation avec charge. Vous avez en charge, vous acceptez le don, mais vous acceptez du même coup d'en faire un certain usage et pas un autre. Bien. Là, c'est des formalisations très, très codifiées du don, alors que dans le don et le contre-don non discerné, le don par exemple entre ceux qui s'aiment dans la famille, dans le couple, etc., ça se passe bien quand justement on ne compte pas, on ne fait pas attention à tout ça, etc. Maintenant, je vais vous parler d'un tout autre sujet, puisque ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est ce qui constitue le don et ses différentes espèces. Je l'ai situé dans un espace des possibilités, si vous voulez, déontiques. Et je voudrais maintenant vous parler de ce que j'ai annoncé, à savoir la possibilité du don. Et je vous propose ici de réfléchir à un tout petit texte d'un auteur ô combien éclairant, Ludwig Wittgenstein, qui est le suivant. Pourquoi n'est-il pas possible que ma main droite donne de l'argent à ma main gauche ? Là, c'est Un don impossible, c'est que ma main droite donne de l'argent à ma main gauche. Ma main droite peut le placer dans ma main gauche. Ma main droite peut écrire un acte de donation et ma main gauche un reçu. Mais, ajoute Wittgenstein, les conséquences pratiques n'en seraient pas celles d'une donation. Lorsque la main gauche aura pris l'argent que lui tend la main droite, là encore il y a une faute, excusez-moi, etc., on demandera « et alors ?». Ce texte, à mon avis, a la vertu de nous faire réfléchir à ce qui rend possible un don. Oui. Et ce qui rend possible un don, et suggère ce texte, c'est qu'il faut une altérité entre celui qui donne et celui qui reçoit. Les conséquences pratiques, dis-je, ne sont... Il n'y aura aucune conséquence pratique dans le fait que ma main gauche donne à ma main droite. Mais pourquoi ? Parce que rien dans la structure déontique du monde n'est modifié. Oui. Les droits et les devoirs ne sont pas modifiés. C'est toujours moi qui ai des droits et des devoirs. Ma main gauche n'a pas de droit de devoir particulier par rapport à ma main droite. Mais vous pourrez remarquer aussi que tout aussi bien, ma main gauche ne peut rien acheter à ma main droite. Ma main gauche ne peut pas payer d'impôts à ma main droite. Et ma main gauche ne peut rien non plus voler à ma main droite, ni l'inverse. Ce que nous avons ici, c'est une situation où on est dans l'infra-économique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'altérité suffisante pour qu'il y ait des événements économiques et qu'il y ait des changements dans les distributions de droits et de devoirs, dans les structures déontiques du monde. Les événements qui ont lieu entre ma main droite et ma main gauche sont seulement de nature cinétique, ils ne sont pas de nature déontique ou économique. En d'autres termes, je suis, moi, dans l'espace économique, indivisible. Dans l'espace des droits et des devoirs, je suis indivisible. Je ne peux pas scinder mes droits et mes devoirs entre ceux de ma main gauche et ceux de ma main droite. Il faut une altérité suffisante. Ici s'arrête mon PowerPoint et ici commencent des réflexions que je n'ai pas publiées jusqu'à présent. Une altérité suffisante, mais deux mains appartiennent au même point de l'espace déontique économique, même si elles ne sont pas dans le même point de l'espace physique. Et je voudrais demander pourquoi est-ce que finalement on ne peut pas concevoir une société qui admettrait des choses comme ça. Il semble inconcevable que quelque chose comme un don ait lieu entre les deux membres d'un même corps. Pourquoi cette absence ? Pourquoi cette inexistence ? Ce sont des groupes qui peuvent se donner, ce sont l'un à l'autre, qui peuvent échanger, des individus, mais à l'intérieur de moi, il ne peut pas y avoir quoi que ce soit comme faire un don ou faire un achat. Bien. D'un autre côté, si je prolonge ce que dit Wittgenstein, je peux trouver d'autres cas où il y a des impossibilités de donner. Par exemple, je ne peux rien donner à ce micro ou à cette nappe. Je ne peux rien donner à un radiateur, ni à un atome d'hélium. Je ne peux rien donner à une étoile, ni à une planète. Il est certain que je peux donner quelque chose à Anne, qui d'ailleurs m'a donné une revue tout à l'heure. On peut rentrer dans des relations de dons, d'échanges, etc. Je ne peux rien donner à un radiateur, je ne peux rien donner à une molécule de protéines, que sais-je. Il n'y aura pas de don. Il y aura des événements cinétiques entre nous. Donc, à une extrémité du spectre, entre moi et moi, il n'y a pas de don. À une autre extrémité du spectre, entre moi et quelque chose de complètement inerte, il n'y aura pas de don. Je peux donner à d'autres êtres humains, je peux donner à un groupe. Mais qu'en est-il, par exemple, d'autres cas, de cas intermédiaires, de cas plus ambigus ? Puis-je donner à un animal ? Puis-je donner à une plante ? Puis-je donner au sens fort, faire un don ? Qu'est-ce qu'il se passe lorsque certains d'entre vous, peut-être, mettent à manger dans la gamelle de leur chien, ou encore plus fort, encore plus peut-être significatif, disposent du pain sur leur balcon ou mettent des petits sacs de graines l'hiver pour les oiseaux de passage. Ce n'est pas exigible. Et ça n'a pas de contrepartie exigible. Je crois qu'on peut dire que celui qui met des graines sur son balcon pour les oiseaux de passage, il fait un don aux oiseaux de passage. Quant à donner à son chien, il peut y avoir des ambiguïtés, ça peut être une obligation légale, etc. Ça peut dépendre des régimes juridiques, mais ça peut être aussi être un don, et je suis persuadé que si vous avez des animaux familiers autour de vous, il y aura certainement quelque chose comme des dons ou des choses que vous appellerez des dons. On va dire, par exemple, à propos de telle ou telle nourriture que deux chiens voudraient se disputer, non, c'est à Médor et non pas à Milou. On va avoir un comportement qui suppose qu'il y a quelque chose à cet être-là. Je voudrais ici vous citer un très beau propos de Peter Kemp, qui est un philosophe et éthicien, qui proposait de réfléchir à partir de l'étymologie sur le mot éthique. Et il dit que éthique, on a souvent remarqué que ça vient de ethos, c'est l'étymologie que propose Aristote dans l'éthique à Nicomaque. Ethos, c'est le comportement. Mais il y a une étymologie plus ancienne. Chez Homère, par exemple, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, ethos, avec cette fois un epsilon, c'est l'habitude, c'est les mœurs. Plus anciennement encore, c'est l'habitation. Ethos, éthique, c'est la maison d'enfance. Je cite Peter Kemp. L'éthique, c'est la maison d'enfance, c'est la source à laquelle nous avons appris ce qu'est la bonté par rapport à la perte et au mal, et où nous revenons à cette maison d'enfance afin de nous le rappeler. Bonté comme accueil et hospitalité, comme relation entre recevoir et donner, comme don qu'on a reçu et don qu'on distribue. Bonté qui finalement s'enracine dans la perte de l'être aimé et dans la crainte pour autrui. Je crois que cette mention du donner et recevoir dans la maison d'enfance inclut les animaux dans la maison d'enfance. Je crois que donner et recevoir, nous l'avons fait aussi avec les chiens, les chats, avec les animaux familiers, pour autant que nous ayons eu la chance de grandir avec des animaux familiers. Et je n'ai rien à redire à ce que dit Peter Kemp, dans ce magnifique texte qui s'appelle « La crainte pour autrui » et que vous pouvez trouver sur Internet, qui est très lisible, qui est en ligne. « La crainte pour autrui serait l'origine de l'éthique. » Je n'ai rien à redire à ce que dit Peter Kemp, si ce n'est que la crainte pour autrui, à mon sens, inclut la crainte pour aussi des animaux qui nous sont chers et pas simplement des êtres vivants qui nous sont chers. Mais qu'en est-il des plantes, des bactéries ? Lorsque j'arrose une plante ou que je mets de l'engrais au pied d'une plante, est-ce que je lui fais un don ? Je pense qu'on sera réticent à dire que là, je fais un don à la plante, que je lui fais don de l'eau, etc. On dira que j'en prends soin. On dira que je la soigne. On dira que j'y fais attention. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Quel est l'écart entre prendre soin d'une plante et se soucier des oiseaux de passage, se soucier des animaux, se soucier des chats et des chiens? C'est que, me semble-t-il, lorsque je mets des graines pour les oiseaux de passage, lorsque je paye, par exemple, pour que mon chien soit soigné plutôt qu'euthanasié, etc., lorsque même je paye une assurance pour mon chien, ce qui n'est pas obligatoire, ce qui est un don, par conséquent, ce dont j'ai le souci, c'est d'épargner à cet être certaines expériences. Par exemple, l'expérience de la faim ou du froid ou de la douleur. Ce souci-là n'apparaît pas me semble-t-il, lorsque nous taillons nos rosiers, lorsque nous arrosons nos plantes, etc. Lorsque nous prenons soin d'un être vivant, nous ne faisons pas forcément un don. Ce qu'il y a dans le don, c'est le souci pour un état interne de cet être, me semble-t-il. Lui épargner, par exemple, la faim, le froid, etc. Alors que je n'ai pas de raison particulière de croire que les plantes ont faim, ont froid. J'ai peut-être plus de raisons de penser que les oiseaux peuvent avoir froid. En tout cas, je peux me l'imaginer, même si je n'en ai pas la moindre preuve. Je suis séparé de ces êtres-là, séparé dans une altérité qui fait que leur intériorité m'est inaccessible, que leurs ressentis, que leurs vécus me sont inaccessibles, mais c'est le fait que je leur attribue des ressentis, des vécus, qui constitue le soin que je prends d'eux en don. Je cite ici un poème d'Arthur Rimbaud. Les pigeons qui tremblent dans la prairie, le gibier qui court et qui voit la nuit, les bêtes des eaux, la bête asservie, les derniers papillons ont soif aussi. C'est dans un texte qui s'appelle Comédie de la soif. Nous partageons avec un certain nombre d'êtres non humains, ceux que nous appelons les animaux, nous partageons, croyons-nous, même si nous n'avons aucune preuve et que nous pouvons avoir des difficultés invraisemblables à nous représenter l'effet que cela fait d'être un chien ou d'être un papillon, mais nous partageons, je crois, croyons-nous, le fait d'être une chair. D'être une chair, c'est-à-dire d'être un corps, d'une part, mais d'être plus qu'un corps, d'être un corps qui s'éprouve lui-même, qui a une expérience de lui-même, qui a des ressentis quelconques. Ce qui n'est probablement pas le cas pour, semble-t-il, les plantes, les bactéries ou autres cellules, organismes unicellulaires. Je crois donc qu'on peut donner pour éblouir, pour ravir, pour séduire. On peut donner pour corrompre, on peut donner pour humilier, on peut donner pour faire plaisir, pour rendre heureux. Mais toujours, toujours, lorsqu'on donne, me semble-t-il, presque toujours. La thèse que je défends, c'est que ce qu'on vise, c'est à produire un état interne chez un autre, un état vécu qualitatif, quel qu'il soit, un ressenti quelconque. Ce qu'on appelle en philosophie de l'esprit un état phénoménal qualitatif auquel, par définition, on n'aura jamais accès. Je ne sais jamais exactement l'effet que cela vous fera, François, si je vous donne quelque chose, si je vous donne mon livre, etc. Si ça va vous ennuyer, si ça va vous embarrasser, ou si au contraire, ça va vous faire plaisir, et réciproquement. Il y a un pari dans le don, un pari qu'on va produire un effet interne, un ressenti vécu qualitatif. Et cela n'est possible que parce que nous sommes séparés, parce que je ne suis pas François, parce que je ne suis pas mon chien, parce que je ne suis pas ces oiseaux de passage, parce que je ne suis pas Anne, parce que je ne suis aucun d'entre vous. Nous sommes dans la discontinuité de l'être. Ce que je ressens, c'est moi. Je ne pourrai jamais ressentir ce que vous êtes, etc. Le don, de ce point de vue-là, le don est pari. Mais on peut dire aussi que le don, ce serait une formule un peu risquée, mais que je vous propose. Le don est un pont. Le don est un pont jeté vers une intériorité à jamais inaccessible. Et c'est toute la différence entre donner quelque chose à un être vivant en espérant qu'il ressentira telle ou telle chose, et puis simplement prendre soin d'une plante ou prendre soin des enceintes, de l'ordinateur, etc., qui est tout à fait différent, qui n'est pas du don. Le don ne peut pas avoir lieu dans un monde sans chair et sans une autre chair que moi. Je répète que j'entends par chair un corps qui s'éprouve lui-même d'une manière ou d'une autre. Le don, c'est toujours un rapport d'une chair à une autre chair. Pas un rapport d'esprit à esprit, pur esprit à pur esprit, mais un rapport de corps à corps, mais de corps qui s'éprouvent l'un l'autre. je termine. Peut-être que la crainte pour autrui, c'est l'affect fondamental, comme le suggère Peter Kemp, l'affect source de toute l'éthique. C'est peut-être aussi un affect qui motive beaucoup de dons. On a parlé de l'accompagnement en fin de vie, je crois. Demain, on va en parler, ici même, pour voie publique. La crainte pour autrui, c'est un affect fondamental qui est peut-être, comme le suggère le philosophe Peter Kemp, l'affect fondamental de l'éthique. Cette crainte, c'est certes crainte qu'autrui perde la vie, mais c'est aussi crainte qu'autrui souffre. Et cet autrui n'est pas forcément humain. Je suis, à ma connaissance, l'un des très rares à avoir... quelque chose qu'on n'a pas développé encore, mais je ne suis certainement pas le seul, parce qu'on n'est jamais tout seul à développer une idée. On trouve toujours que des gens ailleurs qui ont la même idée. Mais presque toujours, on parle exclusivement des dons entre humains. Ce qui m'intéresserait maintenant, ce serait de voir quel est le rapport de dons qu'on peut avoir avec des vivants non humains, des chairs non humaines. Cette crainte pour autrui, elle n'est pas crainte donc simplement qu'ils perdent la vie, mais qu'ils perdent plaisir à la vie, qu'ils perdent son bien-être. Cette crainte ne porte pas nécessairement sur d'autres êtres humains. Il n'y a aucune raison d'exclure a priori la crainte pour la vie et le bien-être des animaux qui nous sont chers, des affects originaires de l'éthique dont parle Peter Kemp. Et je crois donc que le don est par excellence le type de rapport qui est un rapport à jamais parié, à jamais, un pont jeté vers l'inconnu entre des chairs séparées. Voilà. Je vous remercie.
Merci, merci François. Je ne sais pas, nous ne savons toujours pas si le don c'est bon, mais ce que nous savons c'est qu'il est possible. Et ce que nous savons aussi, c'est combien il est bon de prendre de temps en temps le temps de s'asseoir, le temps de penser, le temps de réfléchir à tout ce que peut recouvrir un terme finalement aussi banal, aussi trompeusement banal. Merci de nous avoir ainsi démontré ce qu'il était possible de faire et de nous avoir ainsi entraînés vers, je crois, dans des chemins que nous continuerons à parcourir. Je pense qu'il doit y avoir un certain nombre de questions ou de réactions que vous souhaiteriez.
Juste une petite remarque sur le fait qu'il n'y aurait de dons qu'entre deux chairs, deux corps. En reprenant l'idée de la communauté de référence, il y a quand même des groupes où le rapport à la nature il est quasi un rapport de personne à personne, c'est-à-dire dans certaines ethnies, quand il y a prélèvement d'une plante, la personne demande pardon à l'arbre de lui couper une branche ou de cueillir la fleur. Donc c'est pas du don, c'est l'inverse du don puisqu'il s'agit d'un prélèvement. Mais finalement, selon la communauté de référence, on voit bien qu'on s'approche quand même de quelque chose qui serait de l'ordre d'une forme de don, enfin, en l'occurrence, l'inverse du don, entre un humain et reconnu comme tel et du coup, un système qui est plutôt de l'ordre de la plante, du végétal. Et alors, ça répond sans doute pas à vos interrogations profondes, mais il y a quelque chose de cet ordre-là dont on peut s'approcher, en tout cas.
Merci. Vous devez répondre tout de suite ou est-ce qu'on prend d'autres questions?
Je vous l'ai dit, François, que maximum de questions et après je répondrai.
Pour dans le même sens de cette question, mais effectivement, vous avez dit que le don, c'était le souci pour un état interne d'un être chez un autre être. Donc, que penser des dons pour des associations? Un exemple. Deuxième point aussi comme question, j'avais que pensez-vous du don à soi-même? Exemple, on veut se faire plaisir, on s'achète un parfum. Donc c'est le cadeau à soi-même.
vous avez passé un petit moment pour éviter que le don recouvre n'importe quoi. Et vous nous avez dit, une ou deux fois, que surtout le don ne savait pas à voir avec les états psychologiques, etc. etc. Donc ça ne manifeste pas. Et à la fin, par contre, on a vu revenir comme rapatrié et l'importance que vous accordiez dans cette relation que le don permettait.
Oui, bonsoir. Oui, on peut faire aussi faire valoir qu'on donne un don à ses enfants, c'est-à-dire qu'on peut donner sa maison à ses enfants sans leur donner, si vous en gardez l'usufruit. Alors là, c'est pas donné, enfin c'est donné, mais en fin de compte, vous en gardez l'usufruit. Mais on considère que quand même c'est un don.
Moi, c'est plus basique. J'ai été très touchée par ce que vous dites au sujet des animaux. Et il y avait une dame derrière moi qui parlait des animaux aussi. Et on donne à l'animal parce qu'on a peur. En effet, c'est de l'anthropomorphisme aussi, peut-être. Je crois que l'anthropomorphisme, c'est un concept qu'en tant que personne qui aime les animaux, je trouve assez dangereux. On donne parce qu'on a peur que l'autre être souffre, mais on a un retour. Il y a un retour du don extraordinaire avec les animaux. Ou alors on a tellement besoin d'amour qu'on pense que l'animal nous donne l'amour dont on a besoin. Mais tout le monde a eu des animaux, tout le monde a des exemples d'amour total d'un animal, d'un contre-don qui est même plus fort que ce qu'on leur donne. Voilà.
Commençons avec cette première moisson.
C'est très bien, je vous remercie. C'est exactement le genre de choses dont j'ai envie de faire part, de discuter, que j'ai envie de partager pour approfondir ce que j'espère avoir clairement présenté comme des tentatives, des ponts qu'on jette un peu dans l'inconnu, des choses qu'on n'a pas entièrement balisées lors d'un travail de thèse, etc., mais qui vont, je l'espère, un peu plus loin que ce que j'ai déjà fait. Ce que vous avez dit, monsieur, à ma gauche, sur le fait que certaines ethnies donnent à des plantes, j'ajoute qu'on donne à des rochers, à des sources, à des montagnes. Ce que vous avez dit me confirme entièrement dans mon propos. Nous ne savons pas, hors de nous-mêmes, où commence et où cesse l'esprit. Ce n'est pas du savoir. Par conséquent, il n'y a pas la moindre difficulté à ce que ailleurs, autrement, on conçoive d'autres êtres comme ayant une intériorité. Ça, c'est le magnifique travail de Philippe Descola, par exemple, sur la nature et la culture, sur les différentes conceptions du rapport entre ce qu'il appelle physicalité et intériorité, et du fait que d'autres horizons culturels, d'autres peuples ont attribué des intériorités là où nous avons nié l'intériorité. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes tous des robots, peut-être que vous êtes tous des robots. Je n'ai de certitude sur l'esprit que les miennes, mon esprit, c'est le cogito cartésien, et c'est seulement vos comportements qui, par un certain nombre d'analogies, de ce qu'on appelle en neurosciences aussi l'inaction, etc., vont me suggérer, vont d'une manière irrésistible, que vous avez des états internes, que vous souffrez, que vous êtes heureux, etc. Et lorsque je m'éloigne de moi, vers des êtres de plus en plus différents, vers les chiens, les chats, et puis après les grenouilles, et puis après, il y aura ces analogies encore, mais où est-ce que cela s'arrête ? Ce n'est pas de l'ordre du savoir. Hein. Et donc, il est tout à fait acceptable, est tout à fait compatible avec ce que j'ai dit, qu'on fasse passer la frontière ailleurs et que même il n'y ait pas de frontière, que ça se perde dans des sables mouvants. Voyez, j'espère vous avoir répondu. Et j'admets complètement l'idée que ce ne sont pas seulement aux animaux que les humains attribuent une intériorité, qu'on puisse attribuer une intériorité dans certaines cultures à d'autres êtres que les animaux, aux plantes, aux sources, aux rochers, etc. Je crois néanmoins qu'il faudrait là-dessus faire très attention, faire des distinctions complexes entre ce qui relève de la croyance, je crois que cette source sera contente de mon offrande, et ce qui relève du faire comme si, d'une convention sociale où tous ensemble on décide de faire comme si, mais tacitement, sans le dire, hein, d'agir avec cette source comme si elle était un être ayant une intériorité, des satisfactions, des mécontentements, etc. Il peut y avoir là un écart entre ce qu'on appelle la croyance et une convention qui serait du mode faire comme si. C'est l'enjeu notamment des remarques de Wittgenstein sur le rameau d'or de Fraser. Bon, je passe là-dessus. Je ne m'étendrai pas sur cette immense question de l'existence des autres esprits. Bon. Alors, le don aux associations. Le don aux associations, c'est d'une certaine manière... c'est d'une certaine manière toujours le don à un autre, à une altérité, même si elle est très lointaine. Et peut-être que le don aux associations, par exemple, pour parler des peuples dits indigènes ou autochtones, une association comme Survival, bon, qui s'occupe des Indiens d'Amazonie, dont les terres sont brûlées par différents brigands, malfaiteurs, etc. Si je donne de l'argent à cette association, c'est peut-être une forme de don véritablement désintéressé, parce que ces gens-là, je n'aurai jamais affaire à eux. Voilà. Alors, je peux rendre cela très spectaculaire, comme on le fait au Téléthon, etc. On peut spectaculariser ce don aux associations, mais ce qu'il y a en deçà, c'est néanmoins que le destinataire de ce don n'aura pas de lien, disons, de subordination, de gratitude obligée à une personne en particulier. Et là, il y a quelque chose qui est véritablement de l'ordre du désintéressement, de l'anonymisation du don, de même qu'on anonymise le don des organes, qu'on anonymise le don de gamètes, en tout cas dans nos législations, et qui fait que on brise la possibilité d'un rapport de fidélité, de redevance, de gratitude à une personne. Donc, de ce point de vue-là, moi, personnellement, je ne vois pas d'incompatibilité avec ce que j'ai dit, mais je ne sais pas si c'était conçu comme une objection. Voilà. Le sens, oui. Alors, bon, tout dépend ce que fait l'association, mais si je donne à des gens qui ont vécu un tsunami au Bangladesh, etc., bah oui, il y a un souci quand même que ces gens que je ne connais pas, etc., mais dont j'imagine qu'ils souffrent, eh bien, ils vont moins souffrir. Si je donne à voie publique, c'est parce que peut-être il y aura une parce que j'ai un souci qui est politique, etc., mais qui toujours, en dernière analyse, concerne, je crois, la qualité d'une vie, quelle qu'elle soit, la qualité d'une vie et d'un le cadeau à soi-même, tout ce que j'ai dit suggère que ça ne peut être qu'une métaphore. Ce n'est pas littéralement correct de parler d'un cadeau à soi-même. Et on parle de cadeau à soi-même, d'ailleurs, surtout dans la publicité. Faites-vous plaisir, offrez-vous un instant de bonheur, ça signifie acheter, jouissez. Hein? Je ne peux pas donner, ma main gauche ne peut rien donner à ma main droite, je ne peux rien me donner à moi-même au sens fort de faire un don. Maintenant, je peux prendre soin de moi-même, mais c'est autre chose. Ce que j'ai dit, c'est qu'on peut prendre soin sans forcément faire un don littéralement. Par exemple, lorsque je prends soin d'une plante ou quand je prends soin de ma santé, etc., je ne pense pas que ce soit un usage littéral du mot don, cadeau, etc. Le don, alors le don et le pardon, c'est océanique cette affaire, hein, le don et le pardon. Je vous recommande la lecture de Jacques Derrida, L'impardonnable et l'imprescriptible, un tout petit livre sur le pardon comme don. Il y a un point commun entre don et pardon, hein, c'est la non-exigibilité. C'est-à-dire l'initiative aussi. Et en dernière analyse, quelque chose peut-être comme la liberté. Oui. Quelque chose comme la liberté. Alors, oui, vous avez tout à fait justement souligné, monsieur, que j'ai dit le don, ce n'est pas la motivation qui fait le don. Et puis à la fin, j'ai réintroduit la motivation, mais bien entendu, bien entendu. Vous avez parfaitement compris le sens de ma démarche. Je dis, les motivations peuvent être très hétérogènes dans le don, mais il y en a une, il y en a toujours une. Qu'est-ce qui fait, quel est le point commun de toutes ces motivations? C'est un pari sur un état interne d'un autre qui n'est pas moi. Voilà. Mais après, ce pari, cette tentative, elle peut être extrêmement variée, diverse, etc. Je peux donner pour séduire, pour plaire, pour ravir, pour éblouir. Je peux donner parce que j'ai le souci de quelqu'un qui souffre. Je peux donner pour étaler ma richesse, ma puissance, ma générosité, etc., pour susciter de l'admiration. Il y a des motivations louables là-dedans, d'autres qui ne le sont pas, etc. Mais toujours, je crois, il y a le souci de susciter un état interne, un ressenti chez l'autre. Alors il y a peut-être une exception, c'est lorsque je donne pour me débarrasser. Lorsque quelqu'un me sollicite dans la rue pour la énième fois et qu'au bout d'un moment, après lui avoir dit non, là, peut-être que ce que j'ai dit ne convient pas. Mais à ce moment-là, on peut dire que ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est d'une certaine manière tellement forcé, le don, qu'il perd un petit peu son caractère d'initiative. Donc j'ai rapatrié le psychisme, oui, parce que fondamentalement c'est une affaire de psychisme, mais d'une hétérogénéité extraordinaire du psychisme. Le don est un point de convergence d'intention, de motivation très 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 hétérogène. Mais qui ont néanmoins en commun, qui ont néanmoins comme présupposé l'idée que autrui ressent quelque chose, etc. On peut donner la propriété, on peut donner l'usufruit, on peut donner l'usufruit sans la propriété, lorsqu'on prête quelque chose, on le donne, on donne un usage pendant un temps donné. Je n'ai pas dit, et ce serait complètement faux de penser que donner, c'est toujours donner la propriété. C'est le cas simplement le plus simple. Hein, c'est les enfants qui disent donner, c'est donner, reprendre, c'est voler, etc. Mais quand je prête sans intérêt, je donne l'usage. Je donne l'usage pendant un temps, je donne la jouissance pendant un temps. Simplement, il y a un point où le don présuppose la propriété, c'est que l'usufruit, je ne peux le donner que si j'ai d'une certaine manière un droit, quelque chose comme un droit de propriété sur le bien. Donc, je pense simplement que propriété peut revêtir des formes extrêmement différentes et que toute propriété n'est pas ce qu'on appelle propriété pleine et entière, c'est-à-dire celle d'usus fructus et abusus, c'est-à-dire d'user, de jouir des fruits et d'abuser jusqu'à détruire. Toute propriété n'est pas de ce type. Il y a des variétés indéfinies de la propriété, mais il me semble que, je n'ai pas trouvé de contre-exemple, quand on donne, quand on fait un don, c'est toujours qu'il y a sur ce que l'on donne, l'usufruit, le bien, le temps, etc., l'attention, on a un droit sur. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le retour qu'on a des animaux? Entendons-nous bien, le don peut avoir une contrepartie, un don en retour. Ce que je dis juste, c'est que ce n'est pas exigible. Est-ce que lorsque les animaux nous expriment leur affection ou ce que nous croyons être tel, est-ce qu'ils nous donnent? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que si ce que j'ai dit sur la structure déontique est exact, la structure déontique présuppose, qui est le substrat du fait de donner, de faire des dons, etc. La structure déontique suppose, je pense, des capacités qu'on n'a probablement pas en dehors de l'espèce humaine. Mais ça, c'est un point avec lequel je me suis beaucoup débattu dans la troisième partie de mon livre, c'est de savoir comment est-ce que l'évolution des espèces a pu produire des êtres capables de faire des dons, sachant qu'il y a des circulations de ressources chez les animaux, qu'il y a des formes d'altruisme comportemental chez les animaux, qu'il y a toute une série de phénomènes extraordinaires de circulation des ressources, des biens, des services, ou des services, etc. Est-ce que ce sont des dons? Est-ce que c'est quelque chose qui est proprement de l'ordre du déontique et pas du cinétique? J'ai de très fortes réserves là-dessus, même si je pense que d'une certaine manière, notre capacité à faire des dons, à prendre soin d'autrui en provient. Voilà. Mais là, je vous renvoie à mon livre, je suis désolé, que j'appelais « Pour une histoire naturelle du don », parce que j'ai tenté de montrer que le don provient du vivant, de l'évolution de l'espèce humaine, mais parce que je n'y suis pas parvenu. J'ai tenté de le montrer, mais je n'y suis pas parvenu.
Quand vous parlez d'action chez les animaux qui relèverait de l'attention à l'autre, n'est-ce pas l'instinct de survie de l'espèce?
Mais l'instinct, c'est l'asile de notre ignorance. Nous ne savons pas ce que c'est.
Alors, moi, j'ai une dernière question quand même. Parce qu'il me semble qu'il y a une acception, ou du moins une utilisation du mot don, que l'on fait très couramment, et que vous n'avez pas faite, au moins de manière explicite, lorsque l'on dit par exemple que quelqu'un a le don des mathématiques ou le don de la musique, il est évident que vous avez le don de nous faire réfléchir. Comment est-ce que vous pouvez intégrer ça?
Non, on peut répondre de façon très simple. Je crois. Nous sommes des êtres finis dont la capacité de maîtrise sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils deviennent est extrêmement limitée. Et une manière d'exprimer cela, une manière d'exprimer cette impuissance sur ce que nous sommes, cette non-maîtrise que nous sommes, c'est le vocabulaire du don. Quelque chose m'advient que je reçois, dont je ne suis pas maître, qui est un dehors, un don des dieux, des muses, des ancêtres, que sais-je, des dons, nous avons reçu l'être, je conclue encore là-dessus. C'est notre non-maîtrise de ce que nous sommes que nous exprimons lorsque nous recourons au vocabulaire du don, même lorsqu'aucun donateur n'est identifiable.
Merci, merci François. Je crois que, enfin, je suis sûr même, que grâce à ce que vous nous avez donné ce soir, nous repartirons avec un état interne sensiblement modifié. Merci, merci encore. Merci à tous et je vous rappelle bien entendu que Voix publique n'est pas finie, loin de là. Voix publique ne fait que commencer et que demain, tu fais la liste de ce qu'il y a demain ou le...
Permettez-moi de vous remercier pour la qualité de votre écoute et de cette discussion et de vos questions qui m'attestent que j'ai été entendu.
Merci.
Demain à 14h, on se retrouve au lycée Saint-Jacques.